Jean-Claude Guilliboud, qu'est-ce que vous pensez du problème du langage, de la communication à l'intérieur de l'Église ?
Il y a quantité d'expressions qu'il faudrait que nous prenions la peine de décaper, de dépoussiérer. Mais bon, il y a des gens qui le font. J'ai déjeuné avec Timothy Radcliffe, qui est l'ancien supérieur des Dominicains. Alors lui, il a une espèce de manière jubilatoire, dévastatrice, de dire ces choses avec force dans un langage moderne. Moi, j'ai le sentiment, vous direz, c'est facile à dire, maintenant il faut passer au travail, quoi. J'ai le sentiment que l'Église aujourd'hui, elle n'a pas un problème de contenu, elle a un problème de langage. Mais ce n'est pas la première fois. Une fois, j'avais écrit ça dans un article et j'ai reçu une lettre magnifique d'un lecteur superbe de gentillesse qui m'a dit « Mais monsieur Guilliboud, Jean 23 avait dit ces choses-là avant vous. » Et il m'avait envoyé une photocopie d'un texte de Jean 23 dans lequel le pape disait « Pour nous chrétiens, les textes ne sont pas un dépôt sacré mais une fontaine de village. » Ça m'a bouleversé, cette image. Ça veut dire une fontaine d'où coule une eau qui est toujours la même et toujours différente. C'est-à-dire qu'il y a tout le temps à puiser autre chose.
Et au bord de cette fontaine, le Christ avait rencontré la Samaritaine. Et il y a aussi ce message subversif de la relation qui inclut la femme. Catherine Guilliboud, vous êtes avec nous, la femme de Jean-Claude Guilliboud. Et j'aimerais aussi que vous nous disiez l'itinéraire de votre mari. Comment ça vous a parlé, transformé? Est-ce que vous l'avez vu se transformer?
C'est toujours difficile de dire qu'on voit quelqu'un se transformer. Chemin très, très personnel, très intime aussi. Et c'est vrai que pour le premier et le deuxième cercle, j'ai pu participer de façon, presque intellectuelle, c'est-à-dire comprendre, lire des textes, se dire « Ah mais oui, c'est bien sûr, il a raison ». Pour le troisième cercle, qui relèverait plus de la foi intime, de la prière, de tous ces moments où finalement on est seul avec lui, là c'est très difficile d'intervenir ou de... Mais je vois les choses lentement quand même se changer, oui. Et aussi peut-être dans notre vie, dans notre relation, dans notre chemin.
Il y a un mot que vous n'avez pas beaucoup employé qui est le mot d'expérience. Et pourtant, votre cheminement est un cheminement d'expérience.
Oui. Moi, j'ai été très marqué par mes 20 ans de journalisme, si vous voulez, par mes 20 ans de tragédie. Mais j'ai été marqué.
Au cours de laquelle, je crois que vous avez rencontré un prêtre au Vietnam.
Oui, bien sûr, le père Etcharen, qui était à l'époque missionnaire au Vietnam et qui est devenu le supérieur des missions étrangères de Paris. Bien sûr, nous avons énormément sympathisé, puisque c'est grâce à lui que j'ai eu le prix de journalisme, le prix Albert Londres, puisque il m'a fait traverser le Vietnam en voiture, alors qu'à l'époque, personne ne le faisait. Il m'a fait endosser une soutane. À un certain moment donné, non, ça a beaucoup compté. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai été très marqué par ces 20 années de tragédie, de guerre, de révolution, mais dans un sens paradoxal. C'est ce que j'ai quelquefois du mal à expliquer à des jeunes journalistes, c'est que ça m'a rendu optimiste. C'est que j'ai le souvenir, évidemment, de tragédies, de morts. J'ai vu mourir énormément de gens, mais j'ai gardé de ces 20 années-là plus le souvenir de gens capables d'espérance dans les pires moments. Capable d'être debout, capable d'affronter les choses. Vous savez, quand vous passez 20 ans de votre vie au milieu de gens pour qui le seul problème c'est mourir ou vivre, et que vous voyez dans ces circonstances-là des gens debout, des gens qui ne désespèrent pas, quand vous rentrez chez vous dans votre pays d'Europe, tranquille, paisible, vous ne vous sentez pas le droit d'être triste, d'être désespéré. Moi, j'ai eu le sentiment que j'étais interdit de désespérance, parce que être grognon, être cafardeux, être résigné, serait été dans mon esprit trahir tous ces gens que je laissais là-bas dans leur fournaise. Donc, paradoxalement, cette expérience du malheur m'a rendu profondément, et j'ai l'impression que plus je vieillis, plus je le suis, profondément habité par l'espérance, oui, tout à fait.
Catherine Guilliboud et Jean-Claude Guilliboud, qu'est-ce que vous espérez? Quelles sont vos priorités que vous mettez en avant pour les années qui viennent? Catherine Guilliboud.
C'est une question terrible. Je pense que c'est de vivre notre amour de façon peut-être plus ouvert vers l'autre, plus productif aussi, moins cantonné dans notre histoire personnelle. Voilà, peut-être qu'après 28 ans d'histoire personnelle, on est assez fort aussi pour se tourner vers l'autre. Parce que bon, c'est quand même une force incroyable. Donc il faut la faire sortir de nous aussi. Je crois que c'est la seule chose.
Oui, mais moi, je suis assez d'accord avec Catherine. Comment vous expliquer? J'accorde plus. Maintenant, j'ai 64 ans, vous vous rendez compte? Bon, ça a passé très vite, mais enfin, c'est déjà là avant. Je suis de plus en plus sensible à quelque chose qui est fondamental chez Bernanos, par exemple, que j'ai beaucoup lu. C'est la joie, quoi. C'est être habité par la joie, c'est-à-dire non seulement l'éprouver soi, mais la donner. Être capable de diffuser autour de soi de la joie, quoi, tout simplement. Mais pas de la gaieté, de la joie au sens profond du terme, quoi.
La joie d'une présence.
De la joie d'une présence. C'est-à-dire qu'avec Catherine, on est assez content, ça nous arrive de temps en temps, pas assez souvent, mais j'espère que ça nous arrivera de plus en plus souvent, quand des gens nous disent « qu'est-ce que vous avez l'air joyeux, quoi ?» Hein, ça nous arrive quelquefois quand on est... Et si on pouvait faire encore plus ça? Parce que vous savez, j'ai le sentiment que les chrétiens ne sont pas assez joyeux. C'est assez étrange, parce qu'ils devraient sans arrêt se dire, non d'une pipe, si je crois, ça veut dire que je suis convaincu que j'apporte une bonne nouvelle. Mais quand on apporte une bonne nouvelle, on rigole, on est joyeux à tous les sens du terme, quoi. Je vois trop souvent des chrétiens tristes, quoi, des chrétiens qui rasent les murs avec une triste figure. Parce que la joie, c'est à la fois simple et très compliqué. C'est simple, ça ne fait pas de phrase, mais c'est pas des singeries, c'est une façon d'être, voilà, comme ça.
Un peu comme la foi, ça se décide.
Voilà.
Il y a un acte de foi et un acte de joie.
Oui, oui, je pense qu'il y a un acte de joie. Voilà, je suis toujours très sensible à ces thèmes-là, quoi. L'espérance des matins, l'idée de marche, l'idée de l'en avant, l'idée que la solution à tout, elle est pas derrière, elle est devant, elle est pas dans la clôture, elle est dans l'ouverture, elle n'est pas dans l'exclusion ou l'exclusive, elle est dans le dialogue, elle est dans la rencontre. Cette idée, je crois d'ailleurs que c'est une phrase de Teilhard de Chardin ou de Maurice Indel, je ne voudrais pas dire de bêtises, le dieu de l'en avant. Nous sommes des gens en marche. Et vous savez, comme je viens de faire un gros livre là, qui paraît bientôt en septembre, où j'ai beaucoup lu d'auteurs chinois, d'auteurs indiens, etc., parce que j'ai fait un livre sur les autres cultures, je suis tombé sur un philosophe chinois qui a écrit un livre magnifique au début du siècle, en 1910, Lian Shuming, et il parle des Européens et des chrétiens comme des gens qui sont toujours dans la marche, dans l'en avant, dans l'avancement, et ça l'éblouit, quoi. Si nous, chrétiens, pouvions communiquer cette idée que nous sommes en marche, nous sommes en chemin, nous ne sommes jamais arrêtés à des dogmes, à des certitudes, à des clôtures, à du bétonnage, que nous sommes ouverts en rythme, en marche, ça serait magnifique.
Qu'est-ce que vous racontez aux jeunes ? Quand vous leur parlez des valeurs, quand vous leur dites l'importance du christianisme, le génie du christianisme,
moi je leur fais des provocations parce que ça les excite beaucoup qu'on les provoque. Je leur dis par exemple sur l'égalité, je leur dis est-ce que vous pensez, évidemment pour vous vous êtes bien d'accord avec moi, un noir c'est égal à un blanc et puis un handicapé mental c'est égal à un professeur de mathématiques. Donc vous n'êtes pas d'accord pour penser qu'il y a deux humanités, qu'il y a eu comme par exemple Aristote qui pensait que entre les esclaves et les hommes libres, les barbares et les citoyens, ils n'appartenaient pas à la même humanité. Vous pensez qu'il y a une seule humanité. Alors je leur dis, vous pensez que ça vient d'où ça? Comment se fait-il qu'on pense ça tous ensemble? Oh ben, ils me disent c'est la Révolution française, etc. Oui, j'étais d'accord. Je lui dis, mais les valeurs de la Révolution française, elles remontent à plus longtemps. Et je leur fais des provocations. Par exemple, vous êtes intéressé à la controverse de Valladolid? Il me dit oui, vaguement, je leur explique. C'est la question de savoir si les Indiens d'Amérique latine avaient une âme ou pas, c'est-à-dire s'ils étaient des hommes ou des animaux. Et j'aurais dit, vous savez, on a fait s'opposer deux grands orateurs, dont l'un s'appuyait sur Aristote et l'autre sur saint Paul. Et celui qui disait que les Indiens avaient une âme, il s'appuyait sur saint Paul. Donc en fait, alors tout d'un coup, quand on leur parle comme ça, ils se disent, on n'avait pas pensé à ça. Je les provoque un peu comme ça. Ou alors je les interroge sur le mariage, par exemple. Ça, c'est une chose incroyable. Je leur dis par exemple, pour vous, le sacrement du mariage, comme vous êtes pour le divorce et tout ça, pour vous, le sacrement du mariage, l'Église a inventé ça pour emprisonner les gens. Pour les mettre dans une prison jusqu'à la fin de leur jour. Mais je leur dis, vous devriez vous intéresser au 4e concile du Latran, parce que vous savez, vous trouvez les textes sur Internet. Pourquoi on a fait du mariage un sacrement? Alors il me dit, ah oui, c'est vrai, monsieur, ça, on ne s'était pas posé la question. Alors je leur dis, mais demandez-vous pourquoi on a fait du mariage un sacrement? Je leur dis, vous savez, à l'époque, les mariages, la règle, c'était les familles qui décidaient du mariage, c'était pas les époux. C'était comme chez vous, si vous avez une copine dans votre classe qui est africaine, son père, tout d'un coup, vous apprenez que son père l'a emmené en Afrique en douce, en lui faisant rater son bac pour lui faire épouser de force un vieux barbon. Et ben autrefois, c'était comme ça. Et pour valoriser le libre choix des époux, le libre choix amoureux, l'origine du sacrement du mariage, c'est ça. Donc c'était une décision subversive, c'était une décision révolutionnaire, une décision de défense de la liberté. Alors ce genre de choses, ils ont oublié parce que personne ne leur a dit. Vous voyez, je veux dire. Donc je pense qu'il y a quantité comme ça de manières de poser des questions anthropologiques tout simplement. Il me semble que c'est une façon de les ramener à des choses essentielles, à des interrogations. Et ils sont plus ouverts qu'on croit. Ils sont pas fermés, ils sont pas clos, pas du tout.
Pour terminer, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous écoutent ?
J'ai une conviction, et je m'abrite toujours derrière ce prêtre Alexandre Maine, qui est ce prêtre orthodoxe qui a été assassiné en 90, là, et qui a été l'un des artisans de la re-christianisation de la Russie. J'ai envie de dire, ce dont je suis convaincu, c'est que l'histoire du christianisme ne fait que commencer. Vraiment.